France Inter, le 18-20.
Vous et moi avons passé un bac qui n'existe plus et depuis ce changement-là qui date de 1995, en filière générale en tout cas, on a changé les lettres A, B, C, D, G pour d'autres lettres L, E, S, S et depuis c'est pas passé grand-chose. Pour tout dire, le bac c'est la grosse machine dont tout le monde dit qu'elle est trop lourde, mais dès qu'on en déplace un petit bout, hop, on touche pas à l'institution, au rite de passage, au monument national. Et bien cette fois, pour le coup, on se contente pas d'y toucher, on tape un grand coup dedans. Les fameuses lettres, donc, on oublie. En revanche, les matières se transforment en choix plus précoces. On supprime le fameux rattrapage. Le nombre d'épreuves passe à 4, plus ce fameux grand oral de 30 minutes qui alimente tellement les discussions depuis quelques jours. Alors allons-y, il y a forcément des choses bien dans cette réforme, ou qu'est-ce qui vous chiffonne? En revanche, est-ce que les inégalités seront estompées ou pas du tout? À vous de nous le dire, que vous soyez prof, parent ou lycéen, parce qu'encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, le bac, c'est vous qui le passez.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et justement, Gabriel, bonsoir.
Bonsoir.
Gabriel, en Ile-de-France, on va se tutoyer. Gabriel, tu es en seconde. Question, on t'écoute.
Alors, ma question porte sur la mise en application de la réforme du baccalauréat, car les informations sont plutôt contradictoires. Mmh. Donc, sera-t-elle appliquée en 2021, donc c'est-à-dire la promotion juste après moi, ou plutôt, donc peut-être en septembre 2018, ce qui fait que je serai concerné par cette nouvelle réforme.
Eh ben, on va essayer de répondre très directement à cette question, Gabriel. Merci beaucoup pour y répondre et pour discuter avec nous tout au long de ce téléphone sonne jusqu'à 20h sur France Inter. Valérie Spahimalani est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de SVT, secrétaire général adjointe du SNES, et Philippe Tournier est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur secrétaire général du SNP d'EN UNSA, et puis Sonia Bourane est également là.
Bonsoir.
Bonsoir Sonia, journaliste éducation à France Inter. Qu'est-ce qu'on répond à Gabriel? Ça commence quand exactement? Est-ce que ça le concerne, lui qui est en seconde?
Non, c'est pour les élèves.
Sonia, directement, allez-y.
C'est pour les élèves qui sont en troisième actuellement. Et le ministre l'a bien confirmé cet après-midi, la réforme doit s'appliquer à partir de juin 2021.
Ça veut dire que ceux qui rentrent en seconde au mois de septembre, en revanche, vont commencer, Philippe Tournier, à devoir se préoccuper d'un bac très différent lorsqu'ils seront en terminale. Donc.
Alors, se préoccuper d'un bac très différent, on verra quand les arbitrages ont été rendus, puisque pour l'instant, il s'agit d'un rapport qui a été remis au ministre, qui a souligné que rien n'était acté.
Arbitrage rapide, d'ailleurs, autant
oui,
que je sache.
Mi-février,
ça se passe au mois de février.
Mi-février. On sait qu'il y aura des choses différentes. En revanche, jusqu'à quel point le lycée sera-t-il véritablement bouleversé, ça c'est une autre question.
Vous avez l'impression, vous, Valérie Spahimalani, qu'on aura un bouleversement dans le lycée, pas seulement au bac, mais aussi dans le lycée ou pas?
C'est à voir, et c'est une question de volonté politique, mais il y a une grande inertie dans les lycées. Vous savez, ce sont des grosses machines, les lycées, on ne peut pas tout bouleverser du jour au lendemain, donc on y va par petites étapes.
C'est les lycées qui sont en inertie, ou est-ce que ce sont les profs qui ont du mal à bouger, vous qui l'êtes, professeur de SVT?
Moi, je vais vous dire, en tant que prof de SVT, les réformes, il y en a en permanence. La dernière, c'était celle du collège, par exemple. Donc, des instructions, il en tombe aussi en permanence. Chaque année, on doit évoluer. Peut-être qu'on devient inerte parce que finalement, on se pose la question quand on a un petit peu d'expérience, cette réforme, qu'est-ce qu'elle va apporter à mes élèves? Qu'est-ce que je modifie pour que ça passe bien? Et donc on réfléchit, et c'est très bien comme ça.
Julie nous appelle au 01 45 24 7000. Julie, bonsoir, soyez la bienvenue et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis maman de plusieurs enfants, dont deux qui sont actuellement l'un au lycée et l'autre en troisième.
Mmh. Ah.
Ce qui fait que j'ai plusieurs questions par rapport à ce nouveau bac qui sonne de manière assez intéressante, mais qui est encore assez vague dans ses modalités. La première question que j'avais, c'était par rapport à mon deuxième, qui est donc en troisième, qui a été impacté par la réforme du collège, qui met quand même un petit peu de temps à se mettre en place et qui va être à nouveau impacté par la réforme du lycée. Je me demande si ça fait pas un peu beaucoup pour la même génération de jeunes. Et puis l'autre élément, c'est que on parle beaucoup de la réforme du bac, mais du bac général. Qu'est-ce qu'il en sera pour les bacs techniques et pro? Est-ce qu'on risque pas d'accentuer la fracture qui est déjà existante entre ces filières?
Eh ben merci pour cette question très concrète, Julie. Philippe Tournier, est-ce que vous voulez répondre? Ce sera l'un après l'autre. D'abord sur ce dernier point, est-ce que vous avez le sentiment, de ce qu'on en sait jusqu'à présent, que une fracture plus importante peut se dessiner avec ce nouveau bac ou pas?
Alors, la mission de Pierre Mathiot portait sur les bacs généraux et technologiques exclusivement. Il ne portait pas du tout sur les bacs professionnels.
On n'y touche pas, on est d'accord.
Ils sont traités par ailleurs, par une autre commission qui fait un autre travail.
Si, il y aura une réforme du bac professionnel, mais pas dans ce cadre-là.
Sinon, il faut rappeler que la mission de Pierre Mathiot était une mission de réforme, de proposition de réforme du baccalauréat pour mettre en œuvre, en particulier, l'engagement présidentiel de quatre épreuves. Et à l'occasion de cette réforme, effectivement, il a proposé des modifications dans l'organisation du lycée, mais il faut souligner que ces modifications ne sont pas une nécessité pour réformer le baccalauréat. C'est-à-dire, ce qu'il propose peut très bien se faire dans un lycée qui ne serait pas transformé dans son organisation, qui devrait être transformé dans ses programmes, mais pas dans son organisation. Donc, ce qui est certain, c'est que les élèves qui passeront le bac en 2021 passeront un bac différent. Est-ce qu'ils connaîtront un lycée différent d'ici là? La réponse est oui en matière de contenu, puisque clairement...
On est obligé, non? Si les épreuves changent, on n'est pas obligé de changer quand même un peu les enseignements?
On peut changer le contenu des enseignants. C'est pas l'organisation qui fait l'école, c'est ce qu'on fait en classe. Donc la question de l'organisation peut parfois être nécessaire. Il peut être nécessaire de modifier l'organisation, mais il peut aussi ne pas l'être nécessaire. Donc là, c'est un choix d'une autre nature. Il n'y a pas de nécessité absolue de le faire. En revanche, il est clair que le lycée des années qui viennent est un lycée qui sera beaucoup plus qu'aujourd'hui tourné vers la réussite dans l'enseignement supérieur.
Valérie Spey-Malanich, vous voyez faire non avec la tête. Changer le bac, ça nécessite pas de changer l'aboutissement vers le bac, c'est-à-dire un certain nombre d'enseignements et de façon d'enseigner peut-être de la seconde jusqu'à la terminale.
Oui, de façon d'enseigner, oui. Ça dépend ce que vous appelez contenu. Si le contenu, ce sont les programmes, on peut enseigner un même programme d'un tas de manières différentes. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Donc après, si vous changez le contenu, la manière d'évaluer les élèves va avoir une influence sur la manière de faire cours, pas nécessairement sur le programme enseigné.
On va beaucoup parler de ce grand oral, ce fameux grand oral au cours du téléphone sonne. Je vois tomber les questions. Typiquement, vous qui êtes prof, Valérie Spahimalani, quand on sait que au bout de la terminale, il y aura 30 minutes, c'est beaucoup 30 minutes.
30 minutes, c'est très long.
C'est d'un élève devant trois examinateurs, ça veut dire qu'il va falloir les amener là-dedans. Ça aussi, c'est peut-être un changement, non pas dans le programme, effectivement, mais dans la manière de l'aborder.
Moi, je vous dis clairement, je ne fais pas ça avec ma classe de 35 élèves. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas, sur mes 3h30 de cours avec eux, je ne peux pas préparer ça. Donc, soit on me dit, vous faites cours un semestre, et puis sur le deuxième semestre, on éclate les élèves, mais ça demande des moyens, parce que les petits groupes, ça veut dire qu'on a plus, enfin, on a moins d'élèves par prof, donc il faut plus de profs, ou alors il faut plus d'heures prof. Donc, il faut assumer le coup. Et puis, ça veut dire aussi qu'au deuxième semestre de terminale, on fait moins d'heures de cours. Ou en tout cas, c'est quand même assez révolutionnaire, cette épreuve et sa préparation telle qu'elle est précisée dans le rapport Mathiot.
Mais alors justement, est-ce que l'important, quand on va avoir 30 minutes d'épreuve orale, est-ce que l'important c'est vraiment la matière, c'est-à-dire vos 35 élèves dans votre classe, ou est-ce que c'est pas plus globalement, j'ai envie de dire, peu importe, en fait, ce qu'on dit, comment on s'entraîne, l'important c'est aussi d'être capable de parler en public. Donc peu importe qu'on parle de SVT, qu'on parle d'anglais, qu'on parle d'histoire ou qu'on parle d'autre chose.
Vous êtes en train de me dire que c'est pas grave, il faut parler pour ne rien dire.
Non, pas du tout. Je dis simplement que pour apprendre à s'exprimer oralement, que l'on parle de SVT ou qu'on le parle d'histoire, l'important c'est d'être capable de s'exprimer devant des adultes.
Oui, mais on s'appuie quand même sur un contenu qui est un contenu disciplinaire. Donc on s'appuie bien sur un travail qui a été fait dans une discipline. Je plaide pas forcément pour la mienne, pas du tout. Mais donc il faut un travail disciplinaire. Et ce travail disciplinaire, il faut bien qu'il soit réalisé. Dans le lycée, on fait des apprentissages ensemble. C'est ça l'idée aussi. Le lycée, c'est la socialisation. Donc actuellement, le lycée n'est pas tourné vers une série de cours qui seraient des cours en tête-à-tête entre les profs et les élèves. On n'est pas dans une multiplication des cours particuliers. On est dans un apprentissage en commun. Et donc, préparer un oral avec très peu d'élèves, on sait le faire, mais pour le moment, les apprentissages au lycée ne sont pas tournés comme ça.
Sonia Bourhan.
Oui, le grand oral, normalement, tel qu'il est proposé là dans ce rapport, ce serait à partir d'un travail, à partir d'un projet, donc, qui serait basé sur plusieurs disciplines. Donc, on ne partirait pas, effectivement, ce ne serait pas un oral comme ça, abstrait. On partirait sur un travail.
Un entretien de culture générale. C'est un aboutissement d'un certain nombre de
travail fait au cours de l'année de première et de terminale.
Donc il y a un investissement entre les profs et les élèves pour préparer ce grand oral.
Au brevet des collèges, les élèves passent déjà un oral, d'ailleurs qui donne plutôt satisfaction, et les élèves de série générale passent déjà un oral à la suite de ce qu'on appelle les TPE, à la fin de la première, et tel qu'on décrit aujourd'hui le grand oral, alors surtout le mot qui est nouveau en fait, ça ressemble étrangement quand même aux actuels TPE. Donc, Donc, en réalité, on sait déjà faire ce type d'épreuve.
Tiens, Valérie Spamalani, vous avez une consoeur au téléphone. Bonsoir, Julia.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, Julia. Vous êtes prof de SVT, vous aussi. C'est pour ça que je disais
oui,
consoeur. Allez-y,
oui,
on vous écoute.
Oui, bah, je suis contente de voir qu'il y a d'autres scientifiques, parce que souvent, dans ces commissions, il n'y a pas beaucoup de scientifiques pour nous soutenir, dans le sens où je suis un petit peu inquiète de l'éventuelle disparition des SVT dans les troncs communs. Donc, j'ai entendu parler de langues vivantes, de français, d'histoire géo, mais pas de SVT. Or, on enseigne aussi les SVT dans les filières littéraires, en première notamment, et où on travaille beaucoup sur la culture générale scientifique, l'éducation à la santé, on travaille sur la contraception, on travaille sur les OGM, l'alimentation, et tout ça, ça participe à la formation du citoyen. Et qu'est-ce qui va se passer demain si, à partir de 15 ans, certains élèves n'ont plus du tout accès aux sciences de la vie, n'entendent plus parler de réchauffement climatique, autrement que dans les informations, sans y comprendre grand-chose. Donc, franchement, quand le président dit qu'il veut faire de la prévention en termes de santé, si nos futurs adultes ont une méconnaissance de leur propre corps, c'est un petit peu inquiétant. Donc j'espère, il y a des tribunes qui ont été signées par la PBG, notamment par des scientifiques connus comme Axel Kahn, etc. Et j'espère que ça va être entendu parce que c'est assez inquiétant.
C'était effectivement en tout début de semaine. Est-ce que vous avez la même inquiétude, vous aussi, prof de SVT, Valérie Spahimalani? La disparition de votre discipline. En gros, je caricature un peu, mais si on choisit pas la discipline, ben, du coup, elle disparaît, en fait.
Oui, mais c'est une inquiétude que nous portons depuis longtemps, parce que si, par exemple, on parle de la sexualité, comme le disait ma collègue, on a des élèves qui auront eu leur dernier cours sur la sexualité en classe de quatrième. Et puis ensuite, en seconde, on n'en parle pas. Si on choisit une voie technologique où il n'y a pas de sciences de la vie et de la terre, ben c'est terminé. Et donc, on se retrouve avec des adultes qui ont eu des connaissances de biologie, qui ont un niveau de quatrième sur des points qui sont quand même assez importants dans la vie personnelle de tout un chacun. Donc, on a une réflexion à mener. Et je pense qu'aussi une partie du ressenti qu'on peut avoir en tant que prof de SVT, c'est qu'on a l'impression de bien faire notre travail. On nous a demandé de parler du développement durable, on l'a fait. On nous a demandé de parler de l'alimentation, on le fait, etc. On a subi énormément de pression ces dernières années. On a mis tout en place et là on nous dit bah, maintenant c'est bien. Mais cela étant, je pourrais vous dire à peu près la même chose pour toutes les disciplines, parce qu'il y a, toujours dans ces réformes-là une peur des collègues, parce que ça influence plus sur notre quotidien, parce que dans les équipes, c'est difficile de faire les services. Ça peut sembler très corporatiste, mais on a besoin aussi de s'organiser. Et perdre des horaires, ça veut dire qu'on va perdre aussi, non pas des habitudes, mais qu'on va devoir remettre en cause une partie de l'importance vis-à-vis des élèves. Et ça aussi, c'est...
Allez-y. Non, je vous en prie, finissez.
Non, perdre des horaires pour une discipline, ça veut dire qu'elle n'est pas importante. Et ça a un impact aussi sur la manière dont on peut enseigner auprès des autres élèves.
Philippe Tournier, ce dont on est en train de parler, c'est les choix que vont pouvoir faire les élèves à partir pour passer le bac, avec notamment les matières mineures et les matières majeures. Est-ce qu'on sait, par exemple, lorsqu'on choisit un maths et sciences, est-ce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur de maths et sciences, finalement? Donc, jusqu'à quel point on sait que la SVT sera mise de côté, mais ce sera mathématiques, chimie, physique en priorité. Est-ce qu'on sait ça déjà, en fait ?
Écoutez, on ne sait rien de très précis sur l'organisation éventuelle, d'ailleurs, j'insiste, éventuelle, puisque pour l'instant, rien n'est acté, et c'est l'objet justement des discussions qui vont avoir lieu. On peut trouver effectivement cette organisation en majeur-mineur et quelque chose d'un peu compliqué à mettre en œuvre, que les élèves ne savent pas trop, mais alors d'un autre côté, les maintenir tous les enseignements sous prétexte qu'ils ne peuvent pas choisir et qu'ils risquent de perdre une partie des savoirs fait que les élèves devraient tout faire jusqu'au bout. Donc à un moment donné, effectivement, il y a des choses qu'il ne faut plus faire et des choses qu'il faut faire davantage, notamment dans la perspective de l'enseignement supérieur. Donc c'est le problème de l'équilibre entre la culture commune à toute une génération et de spécialisation qui sont nécessaires pour réussir dans l'enseignement supérieur. Mais pour faire ça, il n'y a pas besoin de bouleverser le lycée de la tête aux pieds. C'est déjà ce qui existe. Ça s'appelle les séries, tout simplement. Les séries, c'est au fond des majeurs mineurs.
C'est ce que j'allais vous dire. Le majeur en maths et sciences, ça s'appelle la série S, quoi. Non, au final, au bout du bout.
Oui.
Donc là-dessus, pas beaucoup de changements ou pas? Enfin, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vers un vrai changement ou est-ce que finalement on change les appellations mais pas grand-chose ne bouge derrière?
On va à un vrai changement pour le baccalauréat. Ce changement pour le baccalauréat ne nécessite pas de bouleverser le lycée. Il nécessite de changer les programmes du lycée. Mais on peut décider de changer aussi le lycée à cette occasion. Mais c'est un choix politique d'une autre nature. Mais il n'y a pas l'obligation aujourd'hui de le faire pour réussir la réforme du baccalauréat.
Parce que moi, quand j'entends majeur-mineur, mais vous m'arrêterez si je me trompe, j'entends aussi coefficient en fait. Et on a tous fait ça quand on a passé le bac. On donne le maximum sur les gros coefficients et puis on on néglige plus ou moins les matières à faible coefficient parce qu'on sait que ça ne nous rapportera pas grand-chose. Au final, est-ce que ça ne dit pas un peu la même chose, Sonia Bourane ?
Oui, les deux majeurs compteraient, selon le rapport, pour 25% de la note finale du bac. Hein. Donc ça veut dire qu'on choisirait ces deux majeurs dans l'idée, effectivement, que ça compte énormément pour le bac.
Et le grand oral, lui, c'est 30%.
Donc, non, 15%.
15%, pardon, je croyais que c'était 30%, autant pour moi.
15%.
D'accord, mais c'est effectivement pas pareil. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Savoie, Daniel, soyez le bienvenu.
Je vous appelle de Savoie, donc je suis papa de 5 enfants, dont 3 qui sont encore dans le domaine scolaire, dont un qui est au collège. Et moi, je m'intéresse surtout sur la faculté qu'ont nos enfants de pouvoir s'exprimer de la façon la plus facile. Le ministre l'a souligné ce matin. En fin de compte, le but de ce grand oral, c'est que tous les enfants puissent s'exprimer la façon la plus française, en étant rassuré. Et je pense que le fait de commencer un petit peu à faire discuter, à faire débattre nos enfants en première, me semble un peu tardive. Ce serait bien de le faire peut-être un petit peu avant. Parce que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont timorés, et même s'ils sont dans un univers qu'ils connaissent, l'école, beaucoup restent un petit peu sur la touche, parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer. Donc la création du débat. Et je sais qu'en France, bon, on privilégie surtout l'écrit par rapport à l'oral. Et je pense que l'oral est très important dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ma question.
Merci beaucoup pour cette question, Daniel. Une réponse, Valérie Sipahi-Malani, peut-être ? C'est
oui.
trop tardif de commencer en première pour cette préparation avant la terminale.
Oui, enfin, comme le disait Philippe Tournier, on a déjà un oral en troisième, donc on commence déjà. Après, la préparation à l'oral, c'est aussi la question du nombre d'élèves qui sont dans une classe, parce qu'on travaille l'oral dans les langues vivantes, on le travaille dans tous les cours, on travaille l'oral. On n'est pas dans des cours magistraux au lycée, c'est complètement dépassé. Et donc, il y a des interactions en permanence. Faut-il ensuite préparer un examen dès la seconde ? C'est aussi peut-être mettre sur les élèves, quand ils arrivent en seconde, ils ont besoin de s'accoutumer au lycée, c'est peut-être quand même un peu précoce.
Sonia Bourane.
Il y a aussi l'oral de français qui serait maintenu, hein, d'ailleurs, dans le projet.
On ne touche rien, d'après ce que j'ai compris, on ne touche à rien.
Au bac de français.
Au bac de français, les deux épreuves écrites orales en première, donc avant la terminale. Brigitte, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et vous êtes prof de lettres, Brigitte, on vous écoute.
Oui, prof de lettres, entre autres, parce que je suis aussi comédienne, je fais beaucoup de pratiques théâtrales, et mon témoignage, on m'a demandé de faire court, alors je vais le faire, et de dire qu'effectivement, mais quel dommage, effectivement, que ces pratiques théâtrales ne soient pas, effectivement, pour rebondir, comme le disait ce parent d'élève tout à l'heure, ce papa, depuis opérationnel, depuis l'école primaire, c'est une évidence, j'en fais à titre personnel de l'oral avec mes élèves depuis une trentaine d'années, je suis en fin de carrière, et j'ai encouru les foudres de l'éducation nationale parce que je laissais une trop grande place à l'oral. Je suis absolument ravie, mais ravie de ce grand oral. Et il faut commencer à l'école maternelle. C'est une évidence, je le fais moi-même dans des pratiques théâtrales qui sont aussi mon deuxième métier. Et c'est une évidence, on voit des élèves s'épanouir, s'ouvrir. J'en parlais encore à mes élèves de première ce matin. Ils sont sautés au plafond quand ils ont su qu'ils allaient devoir parler pendant 30 minutes. Voilà, donc là, il y a vraiment un très, 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 très gros écueil dans l'éducation nationale.
Enfin, et je pense pouvoir parler 30 minutes sans être interrompu, attendez, moi aussi, j'en rêve.
Oui, c'est vrai, mais écoutez, on peut peut-être essayer à deux, on y arrivera. Mais je pense que lutter contre l'échec scolaire, je pense qu'il faut centrer le travail sur l'oral. Pour moi, c'est une évidence, voilà, tout simplement.
Merci pour ce témoignage, Brigitte. Moi, j'ai une curiosité, Philippe Tournier, vous allez peut-être pouvoir répondre. Est-ce qu'on est en retard là-dessus, nous, en France, en fait ? Est-ce qu'effectivement, comme le disait un auditeur précédent, on a beaucoup joué sur l'écrit et finalement, on a un peu laissé quand même de côté l'expression orale dans notre manière d'enseigner.
C'est l'importance de la réforme du baccalauréat, justement. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, la façon dont on va évaluer et certifier les élèves à la fin de leur parcours scolaire induit à rebours ce qu'ils font en classe. Les professeurs aujourd'hui préparent les élèves aux épreuves qu'ils vont passer au baccalauréat, et ces épreuves sont très majoritairement écrites, donc ils préparent leurs élèves à des épreuves écrites. Le jour où il faudra préparer les élèves à des épreuves orales, les professeurs prépareront les élèves à des épreuves orales, parce que la préparation au bac est une sorte de contrat de base, si je puis dire, qui lie les professeurs aux élèves dans les lycées. Donc les pratiques changeront dès l'instant où ce qu'on certifie change. C'est-à-dire que c'est un peu paradoxal de dire effectivement à des professeurs comment ça vous devriez faire plus d'oral, mais en fait on évalue les élèves à l'écrit. Hein, donc c'est plutôt une mise en cohérence de l'ensemble.
Valérie Sipahi-Malani, est-ce que d'une certaine façon vous appréhendez-vous d'avoir à faire passer ces oraux en gros dans ces cas-là ? Alors c'est pas encore mis en place, mais qu'est-ce qu'on évalue ? Est-ce qu'on évalue vraiment la connaissance propre de l'élève ? Est-ce qu'on évalue aussi et quelle palace on y met sa faculté à parler en public, à regarder les gens, à pas regarder ses chaussures, à être sûr de lui. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont on pourra évaluer tout ça, en fait, entre le fond et la forme?
Évaluer les élèves, c'est quand même une part importante de notre métier. Hein,
donc, oui, sur l'écrit, on est d'accord.
J'ai tendance à vous dire qu'on sait faire. Évaluer à l'oral, par exemple, les profs de SVT et de physique-chimie font passer une épreuve de compétences expérimentales, et dans cette évaluation des compétences expérimentales, on a une interaction orale avec les élèves, donc on les prépare quand même un petit peu, on sait faire. On a des grilles d'évaluation, on sait faire aussi pour les TPE. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'effectivement, les élèves qui sont issus de familles un peu intellectuelles auront certainement beaucoup plus d'aisance que les autres. Il faut qu'on en tienne compte dans notre évaluation, il faut qu'on y réfléchisse.
Salomé, bonsoir.
Bonjour.
Salut Salomé, tu as 12 ans, c'est ça?
Oui.
Et on t'écoute, vas-y. Donc 12 ans, quoi, 5e, c'est ça?
Oui, voilà.
Voilà.
Du coup, je voulais savoir si on sera obligé de faire des maths, même si la série Elle disparaît.
Ah ben, alors ça, c'est une vraie bonne question. Et moi, si j'avais eu ton âge, je l'aurais posé aussi. Est-ce qu'on est obligé de faire des maths, même quand la série Elle disparaît? Philippe Tournillon, c'est ça?
Bah d'abord, pour l'instant, la série Elle n'a pas disparu,
non,
elle existe
bon.
Toujours. Et puis, si elle disparaît, il faudra voir ce que font les élèves. Enfin, aujourd'hui, les élèves en Elle ne font pas effectivement de mathématiques, sauf ceux qui font l'option.
14% d'élèves de la série Elle font des maths avec depuis 2013. Avant, c'était 100%.
Donc, Salomé, si j'ai bien compris, ce que tu veux, c'est plus jamais avoir à faire de mathématiques, une addition, une soustraction, n'importe quoi, plus rien, jamais, quoi.
À peu près, oui.
On a bien compris où était ta motivation, Sonia.
Alors, malheureusement pour Salomé, ce qui est prévu, c'est que les maths restent dans le tronc commun, c'est-à-dire les matières qui seront obligatoirement suivies par tous les élèves.
Mais qui feront l'objet d'un contrôle continu, peut-être, et qui ne seront pas dans les épreuves qui comptent le plus, en fait. Voilà, Salomé. Ceci dit, Salomé en cinquième, avec peut-être du temps de voir à nouveau, non seulement s'adapter, c'est ce que j'allais dire, notamment s'adapter à cette réforme, mais peut-être aussi une autre qui viendrait. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Vous êtes à Paris, Virginie, on vous écoute.
Oui, moi je voudrais savoir sur le contenu des majeurs, de ces enseignements majeurs et mineurs, qui va décider de ce qu'il y a dans ces contenus, si ça ne va pas engendrer des lycées à deux vitesses, et parce que dans certains établissements on va proposer plus d'enseignements mineurs beaucoup plus variés, et que va-t-il se passer des professeurs, par exemple, qui enseignaient dans les lycées technologiques la gestion, la culture des agnes, etc., etc.
Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'on peut répondre à Virginie? Est-ce qu'on a cette réponse, Philippe Tournier?
Non, on n'a pas du tout aujourd'hui cette réponse. On n'en est pas du tout à ce stade. Hein. Le rapport a été remis, les discussions n'ont pas encore eu lieu, les arbitrages n'ont pas eu lieu. Donc on n'en est pas du tout aujourd'hui à un tel niveau de précision.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura, Sonia, de vrais packages? En fait, je vais poser une question un peu bizarre, mais est-ce que je pourrais avoir un major qui dirait maths et lettres? Et pas lettres et langues ou maths et sciences. Alors, est-ce que je peux faire des mélanges, en fait?
Ce n'est pas vraiment prévu comme ça. Il y aurait ce que propose Pierre Mathieu, c'est une liste de combinaisons de majeurs qui seraient établies au niveau national. Donc il y en aurait à peu près une dizaine. Et ensuite, les lycées pourraient proposer des combinaisons de majeurs propres, c'est-à-dire qui seraient en fonction de certains débouchés dans certaines universités, des choses comme ça. Donc ce serait, y aurait quand même un cadrage national et ensuite une liberté laissée aux lycées.
Et qu'est-ce qu'on fait c'était aussi une partie de la question de Virginie, qu'est-ce qu'on fait de ces options, design, enfin des choses un peu de tri, sont très très particulières dans certaines filières et dans certains lycées. Valérie Spahimalani?
Ce sont des majeurs très particulières, comme vous le dites, qui ne devraient pas être très impactés par la réforme, ne seront pas impactés les arts appliqués et puis l'hôtellerie-restauration, qui sont des séries qui ont été rénovées récemment et qui sont très particulières.
Je suis professeur à la retraite, nous dit cet auditeur qui nous écrit sur franceinter.fr. Je suis d'accord avec l'épreuve orale. Par contre, je suis opposé au contrôle continu à cause des pressions possibles et probables des parents et des chefs d'établissement, ou même pour d'autres raisons. Est-ce que le contrôle continu, Valérie Spahimalani, peut poser un problème ou pas?
Le contrôle continu, c'est un contrat que la classe passe avec l'enseignant. Si, et donc ça dépend des classes, on adapte son contrôle continu à la classe, on fait des choix pédagogiques. Si ce contrôle continu est aussi utilisé pour obtenir un examen, on lui donne une deuxième fonction qui perturbe la première. Et donc là, ça devient extrêmement compliqué à gérer pour les enseignants.
C'est-à-dire que les contrôles n'ont pas la même allure, en fait, quand on sait que... Parce qu'au final, comme on regarde les dossiers pour entrer dans un certain nombre d'écoles, moi, j'ai toujours eu le sentiment que, finalement, le contrôle continu, il existe sans dire son nom, ou pas.
Il est complètement modé. Enfin, il est sur le modèle du baccalauréat pour la classe de terminale. Pour la classe de première, c'est un petit peu différent. Mais donc, de fait, vous avez raison. Le contrôle continu en classe de terminale a une signification particulière parce qu'il y a les épreuves qui le norment en bout d'année. Si vous enlevez les épreuves en bout d'année, là, vous enlevez la norme et donc il peut partir dans toutes les directions.
Philippe Tournier.
Alors, aujourd'hui, pour la chose qui importe aux élèves de terminale, c'est-à-dire rentrer dans l'enseignement supérieur, c'est 100% de contrôle continu. C'est-à-dire que ça se fait exclusivement et maintenant sur toutes les formations, même les licences, ça se fait sur la base de ce qu'on appelle la fiche à venir, c'est-à-dire simplement le résumé des bulletins trimestriels.
Et en même temps, si on se base que là-dessus, on peut supprimer le bac, du coup.
Non, alors il existe bien des épreuves nationales, sauf qu'elles arrivent trop tard, c'est-à-dire qu'elles arrivent quand tout est décidé. Là, ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'il y aurait des épreuves qui auraient lieu juste assez tôt pour que le résultat de ces épreuves, notamment des majeurs, soient pris en compte dans le recrutement post-bac. Et du coup, la réforme garantirait plus d'équité entre les élèves et cette crainte d'inégalité, c'est aujourd'hui que c'est comme ça. Et que là, ça permettrait sans doute de mieux réguler ces fiches à venir, de mieux objectiver ce qui est écrit. Et de ce point de vue, ça serait sans doute plus d'égalité de traitement pour les élèves dans l'entrée dans le supérieur.
Valérie Sipahi-Malani, je vous ai entendu dire non.
Non, mais de toute façon, c'est un désaccord que nous avons avec nos collègues proviseurs. Pour nous, le contrôle continu en terminale, il est verrouillé par les épreuves du bac. Donc si vous enlevez les épreuves du bac, le contrôle continu n'est plus du tout verrouillé. C'est ce que l'on constate en maths et en français, par exemple, au collège, où on voit qu'il y a une grande différence entre le niveau du contrôle continu et le niveau des élèves au brevet. Et donc on se rend bien compte que le contrôle continu, c'est très important dans l'interaction entre les classes, entre les élèves et l'enseignant, mais ça ne peut pas être utilisé pour une certification.
Sonia Bourin, qui voulait ajouter
quelque
chose.
Oui, il y a de grosses différences aussi de notation d'un lycée à l'autre, on le sait très bien, d'un enseignant à l'autre.
Oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça pour rentrer à l'enseignement supérieur. C'est aujourd'hui le 100% de contrôle continu, puisqu'il y a bien les épreuves nationales anonymes, mais qui arrivent quand tout est fini. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on introduirait des épreuves nationales et anonymes dans le processus de recrutement dans l'enseignement supérieur, et je pense que pour les lycéens, c'est quand même plus de garantie que le système actuel.
Bonsoir Jean-François, pardon.
Oui,
bonsoir Jean-François, on vous écoute.
Oui, j'étais étonné, alors sauf à ce qu'une information me manque, mais on n'a pas évoqué une seule fois le problème de la science éco. Et la science éco est quand même au centre un petit peu tout dans cette évolution, en tout cas du bac, parce qu'elle est liée aux maths, elle est liée à la structuration d'un raisonnement, elle est liée à une présentation. On parle de faire intervenir des gamins à l'oral, mais il faut qu'il y ait une structure de raisonnement derrière, et on n'en parle pas. Enfin, moi, je suis un petit peu sidéré du fait que je n'ai pas entendu depuis le début du débat. Alors, je prêche un petit peu pour ma matière, soit.
Un petit peu, mais chaque prof prêche pour sa matière, c'est normal.
Oui, alors moi, je ne suis pas strictement prof, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise et j'enseigne au lycée en tant que vacataire et j'enseigne en fac en tant que vacataire. Et je vois en troisième année les lacunes d'un manque de structuration de raisonnement et de culture économique, alors que la culture est vraiment partout, dans l'actualité, dans le moindre calcul de rentabilité, c'est lié aux maths, et on n'a pas ça, on n'entend pas ça. Alors, quid de l'économie dans la réforme?
Philippe Tournier, est-ce qu'on oublie l'économie dans la réforme?
Bah écoutez, qu'on me cite la discipline qui ne sert à rien et qui ne contribue en rien. Donc on n'a pas parlé des sciences économiques et sociales, mais on n'a pas parlé de la philosophie, ni de l'anglais, ni de la physique, ni de la mathématique. Je veux dire,
on a une prof d'anglais à venir.
Voilà.
Florence, patientez une seconde.
Voir l'entrée sur ces questions. Voilà, on forme des élèves à une culture générale qui leur permet notamment de réussir dans l'enseignement supérieur. Donc effectivement, les sciences économiques et sociales contribuent, mais comme toutes les autres disciplines, à ce socle nécessaire pour réussir.
Valérie Sipahi-Malani.
Oui, on n'a peut-être pas tellement parler de la filière économique et sociale au lycée parce que c'est celle qui fonctionne le mieux finalement, c'est celle qui est la plus équilibrée en termes de matière, en termes d'horaire, avec des élèves qui la choisissent, qui réussissent dans le supérieur. Donc on n'est pas dans la difficulté de la série S qui est une série qui est devenue monstrueuse avec des élèves en difficulté, et on n'est pas non plus dans celle de la série L qui a perdu un tout petit peu le sens des apprentissages.
Mais alors du coup, pardon Sonia, moi je comprends pas, s'il y a des modules effectivement et des majeurs et des mineurs, la science éco ça rentre dans maths et sciences, dans lettres et langues, dans
ça
autre chose
être,
encore.
Ça pourrait être une
ou dans
une
les deux.
Majeure, ça pourrait être maths, sciences économiques et sociales, ça pourrait faire partie des majeurs. Donc c'est pas forcément oublié. Hein.
De toute façon, que notre auditeur se rassure, il y a des professeurs de sciences économiques et sociales, donc il y aura forcément des sciences économiques et sociales.
Allez, ben on a fait appel au prof d'anglais et à l'instant, Florence est apparue. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Eh bien, moi, je suis ravie de cette réforme, réforme du lycée et réforme du bac. Nous l'appelions, nous sommes quand même assez nombreux dans les établissements, je suis prof en lycée, à appeler un changement du baccalauréat. D'abord parce que, très honnêtement, il n'a plus vraiment de valeur, je suis désolée de le dire. Arriver à 85 ou 90% de réussite au bac, ça fait rire tout le monde. On sait très bien que beaucoup d'étudiants se fracassent derrière. Ils sont persuadés qu'ils ont super bien réussi et quand ils arrivent en post-bac, ils se fracassent, surtout quand ils partent en fac. En anglais, nous avons vu l'introduction de l'oral il y a maintenant, c'est la quatrième année avec la réforme du bac des langues. Et ça aussi, on a applaudi des deux mains. Bon, les modalités étaient un peu discutables, mais au moins, il y avait pour moitié l'oral et l'écrit. Et déjà, et en contrôle continu, en gros, hein, contrôle en cours d'année, c'est un contrôle continu un peu déguisé. Et c'est plus que positif, apprendre effectivement aux élèves à s'exprimer, pas seulement écrire. On est trop axé sur l'écrit. Alors en langue, comment voulez-vous ? Enfin, les langues, ça sert à communiquer. On communique beaucoup par l'oral. Donc,
oui, ça semble tomber sous le sens qu'une langue vivante se parle.
Ça tombe sous le sens. Donc, je pense qu'on a été en langue un peu précurseur. Ils ont peut-être voulu commencer par les langues parce que justement, l'oral paraissait évident. Et pour en revenir après sur ce bac, moi j'ai presque envie d'aller plus loin et d'appeler à carrément la disparition du bac. Et terminer les années de lycée sur une évaluation globale et remplacer ce bac qui coûte cher, qui n'est que du bachotage en année terminale, alors je vous dis pas le troisième trimestre, et remplacer ça plutôt par une évaluation à l'entrée du post-bac, que ce soit en fac ou dans les écoles. Bon, ça se fait dans les écoles quand ils font passer des concours, mais pourquoi pas la fac, ça se fait dans d'autres pays et personne ne s'en plaint. Moi, ça me dérangerait pas.
Vous n'allez pas vous faire que des amis, apparemment, Florence, avec vos méthodes révolutionnaires. Mais merci en tout cas pour votre témoignage sur France Inter. Valérie Spahimalani, qu'est-ce que vous dites de la proposition de Florence ?
Il y a beaucoup de choses à dire sur le témoignage de Florence. D'abord, moi qui suis à titre syndical mes collègues de langue vivante, pour eux, ça a été extrêmement difficile de mettre en place l'oral parce qu'on leur a demandé pour une épreuve du bac de produire leur propre sujet et d'évaluer leurs propres élèves. Et ça, déontologiquement, on a un petit peu de mal quand même. Ensuite, préparer à l'oral dans des groupes nombreux, c'est difficile. En espagnol, en anglais, souvent ils sont 35 dans la classe, donc ça c'est extrêmement difficile. Ça repose toujours la question des moyens qu'on met en face. Et je suis désolée parce qu'on nous reproche toujours de le redire, mais malgré tout, on ne peut pas préparer à l'oral dans n'importe quelle condition. Et puis ce que vous proposez de faire disparaître le bac, ça fonctionnera très bien avec les 10 à 15% d'enfants de cadre supérieur. Pour ceux de nos élèves dont les parents n'ont pas le bac, ça ne marchera pas.
Philippe Tournier.
Oui, alors faire disparaître le bac et faire un examen d'entrée à l'université, justement, ça s'appelle le baccalauréat. C'est-à-dire que le baccalauréat était historiquement l'examen d'entrée à l'université. C'est le premier grade universitaire. Et ce qui est intéressant dans la réforme qui est proposée, c'est que justement, on lui donne un rôle à nouveau dans l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ça n'est plus simplement le diplôme de fin d'études secondaires dont on pouvait se dire qu'effectivement, on pourrait le supprimer. Là, on lui redonne un rôle actif puisque les deux majeurs seront des éléments qui contraire dans le recrutement de l'enseignement supérieur.
Sonia Bourin.
Justement, Philippe Tournier, vous aviez au SNPDEN dénoncé le coût exorbitant du bac. Est-ce que, avec cette réforme, vous pensez que ce serait plus économique ?
Alors, on avait dit que le bac coûtait très cher parce qu'on supprimait des heures de cours pour 1,5 milliard d'euros tous les ans.
Et est-ce qu'on peut chiffrer? Parce que c'est la même question que celle d'Yvan.
Un milliard. Donc, le bac lui-même coûte à peu près 80 à 100 millions.
Parlons par élève, ça coûte à peu près 100 euros par élève. Une année au lycée, c'est à peu près 10 000 euros.
D'accord.
Donc, le bac, effectivement, comme examen, vu sa taille, en tant qu'examen, ne coûte pas très très cher. Faut être raisonnable. Oui. En revanche, ses conséquences coûtent très cher. Puisque pour organiser réviser le bac tel qu'il est aujourd'hui, on supprime 3 semaines de cours, non seulement au terminal, mais aux secondes et aux premières, voire dans les cités scolaires, aux collégiens. Et donc, on évaluait le coût de ces cours supprimés pour faire passer le bac à 1,5 milliard d'euros par an. Et il y a sans doute mieux à employer les professeurs que pendant cette période. Et quand on voit les difficultés des élèves dans l'entrée de l'enseignement supérieur, ces 3 semaines multipliées par 3 quand même, c'est-à-dire quasiment un petit trimestre, pourraient être employées à meilleur escient pour la réussite des élèves.
Pour poursuivre sur ce que vous disiez, Philippe Tournier, cette question d'Isabelle, quand j'entends parler de majeurs et mineurs, dit-elle, ça fait écho au système de la fac. Donc est-ce que ce bac est destiné à une vraie préparation à la fac ?
Ah, il est très clair, et je pense que c'est un sentiment général, c'est d'ailleurs dans la loi sur l'enseignement supérieur, que le lycée a pour objectif de préparer les élèves à réussir à l'université. Mais le lycée, c'est le lycée. Le lycée, c'est pas une espèce de micro-université. C'est un moment particulier de la, voilà, c'est l'adolescence. Donc les parents qui nous écoutent voient bien de quoi on veut parler. Donc c'est l'adolescence, il y a les problèmes de l'apprentissage en classe, etc. Donc on doit mieux préparer les élèves à l'enseignement supérieur. Mais l'enseignement secondaire, ce n'est pas l'enseignement supérieur.
Bonsoir Zachary.
Bonsoir.
Le meilleur pour la fin, donc. Bonsoir Zachary, ça va bien? Et on t'écoute, vas-y.
Oui, alors moi je pensais, est-ce que ce nouveau bac, est-ce qu'il risque pas d'être un certain vecteur d'inégalité, déjà avec le grand oral là qui mettra en avant un héritage culturel d'élèves issus des milieux favorisés quand même, que l'école aurait quand même du mal à gommer si c'est inscrit assez profondément ces inégalités. Et puis au niveau de l'orientation, s'il n'y a plus de filière et que les élèves doivent composer eux-mêmes en quelque sorte leurs emplois du temps et leurs matières, ce sera assez favorable à des familles qui ont une vision sur l'orientation, qui sont informées et qui prennent de l'avance à ce niveau-là.
Merci beaucoup Zachary pour la question. On en a beaucoup, des questions comme celle de Zachary, Philippe Tournier. Alors c'est toujours un peu le même problème, mais celle des inégalités, qui est au courant, qui n'est pas au courant, qui s'est préparé et qui ne sait pas, cette question est-elle réglée par un nouveau bac ou au moins amoindrie par un bac comme celui-là?
Alors il s'en est qu'il faut être attentif à ce que les épreuves ne fassent pas exagérément appel à ce qu'on appelle le capital culturel des élèves. Enfin, on fait déjà passer les épreuves orales à des centaines de milliers de lycéens tous les ans, et ces épreuves ne sont pas organisées autour de l'idée de faire des discriminations. La question des inégalités dans la société est une question extérieure à l'école. Effectivement, l'école a sa part de responsabilité. Ce que fait l'école peut servir effectivement de fixateur à ces inégalités. Bon, un des moyens quand même, c'est de faire simple, si je puis dire. C'est-à-dire que plus on fait un système complexe, sophistiqué, avec un message invisible, plus les élèves peuvent être victimes effectivement de leur milieu d'origine. Si on fait un système relativement simple, ça sera moins le cas. Mais de là à supprimer toutes les épreuves sous prétexte que... Parce que toutes les épreuves, faut supprimer toutes les épreuves dans ce cas, parce que toute épreuve est susceptible de faire appel effectivement au capital social et culturel des élèves. Donc je pense que le but de l'école, c'est pas de supprimer toutes les élèves,
ça ferait des classes moins chargées.
C'est permettre à tous les élèves, effectivement, de surmonter les différences qui existaient au départ.
Allez, puisqu'il nous reste une minute, j'ai un cas d'école à vous soumettre et je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Voici cette jeune auditrice qui nous dit, voilà, je suis élève de seconde cette année. Je souhaite faire une année de césure entre la première et la terminale. Que se passera-t-il à ma rentrée de terminale pour l'année 2020-2021 quand la réforme donc aura été mise en place? J'aurais fait une première S, mais est-ce que je pourrais intégrer une terminale sans filière, sans problème?
D'abord, on verra, on en sera à ce moment-là.
C'est une colle. Merci pour cette colle. Luca, elle s'appelle.
On verra à ce moment-là, mais toutes les réformes posent des questions de cette nature et à chaque fois, ça se règle toujours à l'avantage des élèves.
On prévoit toujours les cas particuliers.
Voilà, elle ne sera pas donc laissée sur le bord du chemin, cette jeune Luca. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous d'avoir posé de si nombreuses questions au 01 45 24 7000. Et si vous avez une petite pointe de frustration, je vous rassure tout de suite, vous allez pouvoir vous rattraper demain, chez Nicolas Demorand, dans le 7-9, donc à partir de 8h20, puisque Pierre Mathiot, qui a été missionné par Jean-Michel Blanquer pour conduire cette réforme du bac, qui a rendu ses premières conclusions, eh bien, il sera son invité. Ce sera tout à l'heure à 8h20. On rappelle, vous l'avez dit, Philippe Tournier, mais c'est important, que on n'est pas dans la version définitive. Hein, on n'est pas encore dans la version définitive. Il va y avoir un arbitrage qui viendra de Jean-Michel Blanquer. Et puis ensuite, on en saura beaucoup plus à la mi-février. Merci beaucoup. Merci à tous.